BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois ce week-end. Merci d'être en notre compagnie. Happy Boulot, c'est l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Au programme, la thune. Comment aborder la question de l'argent quand on est un DRH? On a trouvé l'homme qu'il nous fallait, celui qui n'a apparemment aucun tabou sur le sujet. J'ai nommé Laurent Grasse, le DRH d'Aéroports de Paris, avec nous dans un instant. Quelle relation les salariés veulent-ils avoir avec leur manager? C'est notre sujet de la semaine. On va en parler avec Julien Dreher, entrepreneur, auteur du livre Tous Managers, et Clotilde Mérillon, directrice des ressources humaines de Javelot, plateforme de management de la performance. Et puis en fin d'émission, dans notre labo RH, nous testons les congés illimités avec Kevin Bourgeois, fondateur de l'entreprise Supermood. Voilà le programme, on espère que ça vous plaît. C'est parti tout de suite avec l'entretien de la semaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Et oui, on parle d'argent cette semaine, hein, un sujet fondamental quand on parle d'emploi, d'autant plus ces derniers temps avec l'augmentation du coût de la vie. Et pourtant, ça reste un sujet encore difficile à aborder dans les entreprises, mais plus globalement, culturellement. C'est encore un sujet tabou en France. Bonjour Laurent Grasse.
Bonjour Erwan.
Merci beaucoup d'être dans Happy Boulot avec nous ce week-end, DRH d'ADP, Aéroports de Paris. Si l'argent est un tabou pour certains, ce n'est pas pour vous, apparemment, hein. Vous êtes un DRH décomplexé sur ce sujet-là.
Je suis complètement décomplexé sur ce sujet-là, puisque je pars du principe que la rémunération est une composante essentielle qui contribue à avoir des salariés performants. Mais ce n'est pas la seule composante, par contre, également, puisque là-dessus, j'ai une théorie assez simple. Pour qu'un salarié soit épanoui complètement dans son job et dans ce qu'il fait, il est assis sur un trépied, trois pieds, en termes d'équilibre. Le premier, c'est qu'il doit prendre du plaisir dans sa fonction. Et c'est important, quand on fait évoluer la fonction, qu'ils la comprennent. La deuxième chose, et on y reviendra dans un instant, c'est l'argent, effectivement, sa rémunération. Et la troisième chose, c'est son environnement de travail. Il doit bien se sentir dans sa relation avec son manager, c'est votre sujet d'après, notamment, et sur son équilibre vie professionnelle, vie privée. Pour revenir au sujet de la rémunération, c'est très simple. C'est pas parce que vous surpayez un collaborateur qu'il sera performant et qu'il sera heureux. Par contre, effectivement, si vous le sous-payez, il sera frustré, il sera certainement moins performant. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le marché, et on regarde nos études de marché, et on se cale par rapport aux pratiques du marché. C'est aussi simple que ça, si on veut des bons collaborateurs. Mais c'est, encore une fois, c'est pas suffisant.
Est-ce que vraiment c'est aussi simple que ça, Laurent Grasse? Parce que oui, il faut regarder le marché, il faut s'adapter, il faut se mettre au niveau. Mais après, on parle quand même d'humain, c'est du cas par cas. Donc, sur un poste donné où le salaire, il est dans telle fourchette, il y en a peut-être certains qui vont faire leur travail d'une manière exceptionnelle, qui vont mettre toute leur énergie au boulot, et peut-être qu'ils ont mérite, entre guillemets, plus que la fourchette de base.
Alors, tout dépend de savoir de quoi on parle, Erwan. Il y a effectivement la fourchette marché, comme vous l'indiquez, qui nous donne la base de la fonction. Et ensuite, vous avez des éléments de performance sur lesquels on peut récompenser ce qu'on va appeler les gens plus performants que ceux qui travaillent bien.
Vous disiez alors au tout début que le plus important aujourd'hui pour les salariés, c'est d'être bien dans son travail. Ça s'est beaucoup développé depuis la crise sanitaire. D'ailleurs, beaucoup de salariés dans les grandes villes ont quitté leur emploi pour essayer de reconstruire une vie nouvelle. L'argent, c'est en train de remonter dans les priorités avec aujourd'hui l'augmentation du coût de la vie. Ça veut dire qu'il faut aussi être prêt, quand on travaille dans les ressources humaines, à aborder ce sujet plus librement qu'à une certaine époque.
Alors tout à fait, il y a une chose qui est essentielle, je reviens sur ma théorie du trépied, il faut quand même toujours trouver l'équilibre. C'est pas encore une fois parce que vous allez surpayer vos collaborateurs qu'ils vont être satisfaits. Donc il y a toujours l'équilibre à trouver. Et effectivement, en fonction des périodes économiques, il y a des équilibres à réinstaurer ou à retrouver. L'argent, la rémunération en fait partie en période de haute inflation, c'est clair, c'est net. Mais encore une fois, trouvons l'équilibre et voyons de manière intelligente comment on peut adapter notre politique de rémunération. Ça peut être des mesures prises pour faire face justement de manière spécifique à l'inflation, du style la prime Macron, par exemple, ou d'autres mesures par rapport à la pénurie du marché.
Vous diriez que vous aimez parler d'argent, ou c'est que vous le faites parce que c'est au cœur de votre métier?
Je dis clairement que ce n'est pas un sujet tabou. Ouais. Par contre, il faut être assez pédagogique là-dessus et expliquer aux gens quelles sont les limites que l'entreprise mais sur sa politique de rémunération. Je ne suis pas le DRH qui va aller faire du dumping social parce qu'après, vous allez le payer dans le futur. De la même façon, lorsque vous êtes en période de crise, et pour l'avoir fait, je ne sous-paye pas les collaborateurs. Pourquoi ? Parce que lorsque vous retrouvez une dynamique, les entreprises qui ont fait ça ont du mal à gérer le rattrapage salarial. Voilà. Faut gérer en bon père de famille avec du bon sens.
Laurent Gasse, ça doit plaire quand même aux salariés, un DRH qui n'a pas peur de parler de la rémunération.
Par définition, le DRH ne donne jamais satisfaction, surtout sur le sujet de rémunération.
Mince alors. Chez ADP, on se parle de ces salaires. Est-ce que tout le monde va savoir qui gagne quoi ?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, les salariés discutent entre eux. Par contre, effectivement, vous ne verrez pas un DRH aujourd'hui en France, parce que ce n'est pas notre culture, vous l'avez dit, afficher l'ensemble des salaires dans le hall d'entrée ou dans l'ascenseur. Oui, c'est d'accord. Un sujet qui reste tabou, effectivement. Par contre, effectivement, on essaye, et notamment avec l'égalité homme-femme, d'être de plus en plus transparent, mais c'est toujours compliqué les comparaisons à poste identique et à âge identique.
Il n'y a pas une transparence totale où on va au-delà du respect du privé de chacun, à dire voilà, on affiche tous les salaires, parce que à l'américaine ça se fait.
Alors je dirais qu'actuellement en France notre culture n'est pas une entreprise décomplexée où on fait preuve de transparence absolue sur l'affichage des salaires. Ce n'est pas encore là, même si on progresse notamment avec les publications des plus hauts salaires dans les entreprises.
Vous par exemple, on connaît, enfin les salariés connaissent votre salaire?
Non.
Parce que vous n'y tenez pas, parce que vous n'êtes pas dans la catégorie...
Parce que ce n'est pas dans la culture de l'entreprise.
Ouais, très bien. Vous avez dû voir, Laurent Gasse, DRH d'ADP, il y a quelques jours, que chez Total, Patrick Pouyanné a annoncé une augmentation anticipée de 2% pour les 35 000 salariés du groupe. C'est un sujet, ça, de ces augmentations. Là, on a vu que chez Total, ils ont anticipé par rapport à la colère qu'il y a eu sur les dernières négociations. Un sujet que vous devez apporter en priorité en tant que DRH, c'est-à-dire qu'il faut... prendre les devants, à chaque fois il faut l'anticiper.
Alors tout dépend de la période, mais pour le coup on a anticipé par rapport à Total, puisque la semaine dernière, Augustin de Romanet a annoncé à l'ensemble des collaborateurs d'ADP, après avoir eu une augmentation de minimum 100 euros ou de 3% pour l'ensemble des collaborateurs au 1er janvier 2023, on a annoncé une augmentation supplémentaire de 1,5% pour l'ensemble des collaborateurs au 1er juillet.
Donc ça, c'est fait aussi partie de votre métier?
Ça fait partie de mon métier de discuter effectivement avec notre président, avec notre directeur financier, de regarder notre guideline. Et là-dessus, c'est un travail vraiment en étroite collaboration avec le directeur financier, qui lui a également des indicateurs à suivre. Et on arrive à trouver une politique de rémunération intelligente, à la fois pour l'entreprise et pour les collaborateurs.
Alors, on parle beaucoup d'emploi sur BFM Business, notamment dans cette émission. Il y a quelque chose qui nous frappe régulièrement, c'est que quand on regarde, on va sur les sites d'offres d'emploi, on a rarement, en réalité, le montant de la rémunération. On postule à une offre, on ne sait pas combien on va gagner si on ne fait pas le premier pas d'envoyer une candidature pour ensuite avoir un peu plus d'informations. Ça, on le constate. Est-ce que les fourchettes de salaire, elles apparaissent, vous, sur les offres d'emploi chez ADP ?
C'est une vraie réflexion sur lequel on est en train de travailler, effectivement, et moi je suis intimement convaincu qu'il faut qu'on mette nos fourchettes de rémunération. Premièrement, ça nous évitera de cibler ou que des candidats postulent alors qu'ils ne sont pas dans la fourchette. Et deuxièmement, je pense de toute façon, c'est inévitable, on doit être de plus en plus transparent sur nos modes de rémunération. Donc c'est une réflexion que l'on a. On a échangé notamment...
Avec quelle volonté ?
Une vraie volonté, je pense, à court terme d'y aller.
Très bien. Est-ce que, pour terminer, il y a une question qu'on vous pose régulièrement à propos de l'argent dans votre entreprise ? Est-ce qu'il y a des questions récurrentes, vous et puis le service des ressources humaines plus globalement ?
En fait, la vraie question, il y a deux vraies questions qui interpellent à chaque fois les organisations syndicales, nos partenaires. C'est premièrement, effectivement, ils voudraient savoir le salaire de tous les collaborateurs pour savoir si effectivement on respecte cette équité et notamment l'égalité homme-femme. Et la deuxième chose sur lequel on est en train de voir quelles réponses on pourrait leur apporter, parce que ça reste technique, donc faut faire attention quel niveau d'information on donne, c'est quel est le salaire marché. Parce qu'effectivement, on travaille, nous, avec des indicateurs marché qui valent assez cher, qu'on actualise chaque année, effectivement, qui sont des vrais outils professionnels, pas, excusez-moi, les enquêtes de marché qu'on voit dans des magazines à 5 euros, où à chaque fois je dois aller voir mon président en disant « je suis sous-payé », bien évidemment. Et là-dessus, on a encore un effort à faire, très clairement.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'ose pas vous poser ? Des questions où vous dites forcément que les salariés se posent cette question, mais on ne me l'a jamais posée.
J'en vois pas à court terme, il y en a probablement. Mais je n'en vois pas à court terme.
Bon, ça veut dire que globalement, il y a quand même une communication sur l'argent. On arrive à en parler, à échanger, notamment, vous parliez des syndicats à travers la voix des syndicats sur le dialogue social.
Tout à fait, c'est jamais assez. Mais il y a un document qu'on va rétablir chez ADP, que j'avais mis en place dans mes précédents groupes, qui s'appelle le bilan social individuel et qui permet aux collaborateurs de comprendre l'ensemble de ces éléments de rémunération et également de voir le coût que ça a pour l'entreprise. On oublie toujours qu'il y a des charges sociales ou des cotisations sociales pour financer nos régimes. Et nos régimes de retraite, nos régimes de protection sociale, de santé, ça fait partie de la rémunération également.
Merci beaucoup Laurent Gasse, DRH d'ADP Aéroports de Paris, d'avoir été notre invité dans Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Mais alors, quelle est donc l'idée idéale que se fait un salarié de son manager, de sa relation avec son manager? C'est le sujet de notre focus aujourd'hui. Pour tenter d'y répondre, j'accueille nos deux invités. Bonjour Julien Dreher.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre Tous Managers et cofondateur de Ground. Vous aidez les entreprises à changer leur façon de travailler en plaidant pour l'autonomie des salariés. C'est un sujet dont on va parler ensemble. Et puis avec vous, Clotilde Mérillon, bienvenue.
Merci.
Directrice des ressources humaines de Javelot, une plateforme de management de la performance. Première question, peut-être, comme vous êtes tous les deux managers, un chef d'entreprise, une DRH. C'est quoi pour vous le management idéal, Clotilde Mérillon, peut-être, pour commencer?
Le management idéal, déjà, c'est de s'adapter aux personnes. Donc, je pense pas qu'il y ait un management idéal qui convienne à tout le monde. Mais après, je pense que les principes fondamentaux restent les mêmes, à savoir la confiance, le soutien, la reconnaissance, donner une vision. Ou ça, je pense que c'est un peu plus global, mais après, c'est de s'adapter.
Et c'est donc un management de cas par cas, vous diriez?
Ouais, plutôt de cas par cas. Et en essayant idéalement de ne pas être uniquement un manager opérationnel qui traite uniquement de la gestion de projet, finalement, mais d'aller au-delà et d'être vraiment un manager qui accompagne le développement des collaborateurs.
Julien Dreher.
Je suis assez d'accord avec Clotilde. Effectivement, j'ai envie de dire, il y a autant de management qu'il y a de personnes. Et un management idéal, c'est un management à la carte, parce que finalement, on a tous des expériences qui sont extrêmement singulières par rapport à nos métiers, par rapport à nos expériences, par rapport à tout ce qui fait notre travail au quotidien. Et si on a besoin d'aide, si on a besoin d'accompagnement, si on a besoin de sécurisation, ben en fait, on a besoin de services qui sont propres à chacun.
Mais le management à la carte, c'est possible dans une petite structure, mais dès qu'on arrive dans une PME, ben ça devient quand même plus compliqué, non? Non, vous diriez quoi? Enfin, vous êtes DRH, vous gérez combien de salariés?
On est 70.
70?
Ouais, aujourd'hui,
bon,
je suis
DRH. Ça reste possible ce que vous dites parce que vous êtes 70. Imaginez que vous soyez DRH d'un groupe de 200 salariés. Est-ce que vous pensez, je sais pas, hein, moi je travaille pas dans les ressources humaines, mais est-ce que c'est envisageable de faire du management à la carte quand on dirige une plus grande société?
Je pense que ça dépend de la taille des équipes pour les managers, parce que si on a 200 personnes et qu'on a qu'un seul manager, là c'est sûr que ça va être compliqué. Mais en revanche, si on a des équipes qui sont plus petites, il faut que chacun s'adapte encore à son équipe avec le soutien de DRH.
Julien Dreher, vous êtes alors, on se parle là de ce que c'est qu'un bon manager. Vous plaidez pour l'autonomie des salariés. Ça veut dire qu'un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui va laisser faire ses salariés. Alors, leur faire confiance.
Je vais même plus loin, c'est que je dis que finalement le management doit être distribué sur l'ensemble des collaborateurs.
Donc chaque collaborateur est son propre manager.
À la fois il est son propre manager, mais il accompagne aussi ses collègues ou ses pairs. Il peut prendre des responsabilités sur un des sujets de l'entreprise. Et donc au final on a un management qui est distribué.
Oui, ça veut dire horizontal, totalement.
Alors, pas forcément horizontal, non. Il peut être en réseau, il peut y avoir des formes de hiérarchie, et c'est pour ça que c'est toujours un peu dangereux de parler d'horizontalité, parce que ça simplifie peut-être un peu trop le débat. Mais en gros, la recherche, c'est la recherche de flexibilité. La recherche de flexibilité et en même temps de sécurisation. C'est-à-dire que une personne, elle a besoin d'avoir voix au chapitre et de pouvoir donner un avis sur un choix d'outils, sur un choix de sujet, sur... Le débat sur le télétravail est emblématique de ça. Finalement, on a tous des expériences différentes par rapport au télétravail. Oui. Donc ça, c'est la flexibilité. Et La sécurisation, c'est de pouvoir être accompagné par la personne la plus pertinente par rapport à mon enjeu ou ma problématique, sur une expertise, sur un enjeu de carrière, sur d'avancement dans l'entreprise. Mmh. Et ça peut pas être un manager qui centralise l'ensemble de ses besoins.
Clotilde Mérillon, vos managers chez Javelot, ils sont aussi appelés à ça, à laisser une certaine autonomie, de la liberté à leurs équipes.
Ouais, moi je suis assez convaincue que la sécurité psychologique, c'est un point clé pour la collaboration et pour la performance dans les entreprises. Donc c'est un point qui est essentiel de leur donner suffisamment de confiance pour qu'ils partagent leurs idées, pour qu'ils amènent leurs questions, qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Je pense que c'est un point qui est essentiel et c'est quelque chose qu'on évalue chez Javelot. Ouais.
Mais alors, est-ce qu'on sait vraiment ce que les salariés, dans leur généralité, attendent de leur manager ? Est-ce que vous êtes tous les deux capables de nous dire, voilà ce que veulent nos équipes ?
C'est un peu ce que je disais. Moi, je pense que, pour le coup, après presque maintenant 20 ans d'expérience, c'est un petit peu la conclusion que j'en ai tirée. C'est pour ça que je pense que le management hiérarchique ou la centralisation de l'ensemble des charges managers par des charges managériales par quelques managers, en fait, est plus possible. Parce que ça induit forcément une logique de subordination qui fait que les gens subissent de plus en plus, et c'est tout ce qu'on trouve comme feedback, comme verbatim au-delà, dans le désenchantement avec le travail. C'est le fait de subir le travail, de pas avoir son mot à dire, et par ailleurs le fait qu'aujourd'hui on a tout un tas de sujets qui font notre vie au travail, et ça peut pas être un manager qui a réponse à tout. Donc on va aller chercher le manager le plus proche, celui qui est le plus pertinent pour répondre à son sujet. Par exemple, un outil, si on a besoin de travailler ou monter en compétence sur un nouvel outil, c'est pas forcément son manager hiérarchique qui va le faire, mais ça peut être une autre personne dans l'entreprise.
J'aimerais vous donner deux chiffres et puis que vous nous aidiez à les comprendre, peut-être à les analyser. Le premier, c'est que donc c'est une enquête menée par Waller pour le Workplace Institute de UKJ, qui nous dit que 7 salariés sur 10 estiment que leur manager a autant d'influence que leur conjoint. Ça montre l'importance aussi qu'on donne à son N+1 dans les entreprises.
Ouais, ça m'étonne pas, spécialement. Enfin, mine de rien, je pense qu'on passe limite plus de temps au boulot qu'avec son conjoint, si on fait le calcul évitant le sommeil. Oui. Donc clairement, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait un énorme impact. Et aujourd'hui, je trouve qu'on en parle de plus en plus. On voit l'impact que ça peut avoir, et on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'il y ait une frontière très stricte entre le pro et le perso. Mais je pense que c'est un peu utopique de se dire ça. On ramène toujours des problèmes de la maison au bureau et des problèmes du bureau à la maison. Donc,
Julien Dreher, comment vous regardez ça?
Ouais. Ce qui est très vertigineux, c'est que le conjoint, on le choisit. Le manager, pas forcément.
Ah, on peut choisir sa boîte aussi en fonction de... Non.
Oui, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover. Ouais. C'est que souvent, la raison du départ...
Une fois qu'on a trouvé le bon manager, on ne veut plus le quitter. Quoi.
Exactement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Et puis, c'est aussi un fit personnel. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être un bon manager pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre.
Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, vous dites. Ça, c'est quand même intéressant.
Mais en fait, on se rend compte de la complexité de la charge. Enfin, quand on a été manager, et moi, je l'ai été manager, ça demande une charge mentale.
Vous avez été un bon ou un mauvais manager?
À l'époque, je pensais être un bon manager, mais ça me demandait à la fois une énergie dingue, parfois de me réveiller la nuit parce que j'avais une charge mentale incroyable. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en plus, j'avais dû sûrement provoquer des maladresses sans m'en rendre compte, qui fait que je devais pas être un si bon manager que ça, en tout cas pas un manager parfait. Mais le problème, c'est que l'imperfection se paye assez cash pour un collaborateur.
Et on s'en rend compte trop tard parfois quand on n'est pas un bon manager. C'est trop tard. On se dit en fait, avec le recul, je me dis effectivement j'ai fait des erreurs. Mais peut-être que si on l'avait analysé autrement... D'ailleurs, Clotilde Mérillon, est-ce que vous arrivez à faire le point avec vos équipes de management pour voir si ça fonctionne bien avec les collaborateurs, s'ils sont en phase, s'ils arrivent à se comprendre, si parfois il faut changer, mettre un tel manager dans une autre équipe?
Ouais, ça c'est un point qui est essentiel. Nous, on fait beaucoup de feedback chez Javelot. On a une culture assez ouverte là-dessus. Et c'est sûr que c'est vraiment... très très précieux d'avoir le retour des collaborateurs, et on reparlait de la sécurité tout à l'heure, mais de se sentir en sécurité, de pouvoir faire des vrais feedbacks, parce que si on fait des feedbacks juste pour l'image, ça sert à rien. Donc en effet, il faut que les managers aussi soient suffisamment humbles pour les prendre en compte, sinon ça marche pas.
Ça fait partie de la qualité du manager.
Je pense.
Ouais, l'humilité.
Ouais, je pense que c'est important. Mais en tout cas, là, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que on voit aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent être manager. Et alors qu'avant, on se disait que bah, la promotion, c'était d'être manager, et en fait, on est content de sortir le soir et dire à ses amis qu'on est passé manager. Je pense qu'aujourd'hui, on réalise à quel point c'est une énorme charge, mais comme disait...
Est-ce que ça n'a pas été le défaut aussi, justement, pendant de longues années, de dire, en fait, tu deviens manager parce que ça fait 10 ans que tu es dans la boîte, et en fait, c'est l'évolution logique.
Ouais.
Mais oui, c'est un autre métier.
Et puis c'est l'élément de valorisation de grandeur dans l'entreprise. Enfin, c'est, on est toujours sur un peu ce paradigme de l'entreprise pyramidale. Et le principe d'une pyramide, c'est que bah, plus on va vers le haut, moins il y a de postes, donc plus c'est valorisant d'y être.
Et en fait, on va se mettre à détester d'anciens collègues qui sont devenus managers parce qu'ils étaient de très bons collègues et ils étaient de très mauvais managers.
Et en plus, ça met en échec donc, l'équipe, mais aussi la personne elle-même, puisqu'elle n'est plus dans sa zone de force. Et...
Alors, le premier chiffre que je vous ai donné, donc, c'était ça. Hein, 7 salariés sur 10 estiment que leur manager a autant d'influence que leur conjoint. Le second chiffre que j'aimerais vous faire analyser, c'est celui-ci. 27% des salariés ne font confiance ni à leur RH, ni à leur manager, c'est-à-dire un salarié sur 4. Est-ce que déjà, ça vous étonne? Ça, c'est un rapport de la start-up RH A-Team.
Moi, ça m'étonne pas, en tout cas de ce que je peux en voir ou pour voir, pour croiser d'autres chiffres, je suis pas très étonné par ce chiffre. Il y a vraiment un niveau.
Un sur quatre n'a pas confiance dans ses supérieurs.
Ouais, je m'attendais parfois même à un chiffre plus élevé. En tout cas, on peut croiser des chiffres qui sont parfois plus violents que cela. Ben, ça traduit le niveau de défiance. Vis-à-vis de son travail, de son entreprise, encore une fois, parce que ça reste le seul endroit dans lequel on a quasiment pas son mot à dire, ou en tout cas, on n'a quasiment pas la main sur ses rythmes et sur les choix au quotidien.
Clotilde Mérillon.
Ouais, je pensais pas que c'était autant, moi.
Ah oui, ok. Bah, c'est intéressant.
Un peu trop naïve. Mais oui, je suis pas surprise non plus. Je pense que. Enfin oui, je suis pas surprise. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que on vient d'un monde où on avait du mal à être transparent et à se dire vraiment les choses. Alors que je pense que la confiance, elle se crée en étant transparent et en disant, bah j'ai essayé de pousser ça, mais ça s'est pas passé pour telle et telle raison. Et c'est comme ça que pour moi, on crée la confiance. Donc si on amène un peu plus de transparence, et enfin je pense que la transparence a un peu à avoir un peu d'impact important. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises veulent se développer en ce sens.
Ah, on espère en tout cas. Merci beaucoup. Tant mieux si ça va dans ce sens. Merci Julien Dreher, cofondateur de Ground, auteur de Tous Managers, Clotilde Mérillon, directrice des ressources humaines de Javelot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et nous approchons un grand pas des grandes vacances d'été, l'occasion, bah, pourquoi pas, d'évoquer l'idée de congé illimité, parce que c'est plus un mythe, ça y est, c'est arrivé dans les entreprises. Bonjour Kevin Bourgeois.
Bonjour.
Merci d'être là, fondateur de Supermood.
C'est ça.
Plateforme dédiée au feedback collaborateur. On peut dire un mot d'abord de votre entreprise, là, ce que vous faites exactement?
Oui, on récolte les opinions des collaborateurs sur le terrain, on en fait de la data, et ça permet d'objectiver comment est l'engagement, comment est perçue la stratégie, tout ça.
Pour pouvoir mieux justement manager les équipes.
Mieux piloter. Et quand on est dans un grand groupe, très difficile de comprendre ce qui se passe sur le terrain, on crée ce lien.
Alors Kevin Bourgeois, dans votre entreprise Supermood, les congés payés sont en illimité depuis 2017. Mais ça en fait rêver plus d'un, je pense. Est-ce que ça marche? Enfin, et comment ça marche?
Alors comment ça marche? Vous avez 5 semaines de congés payés, classiques. Mm-hmm. Et ensuite, vous avez des jours de repos que vous pouvez poser, qui sont des jours qui sont non travaillés mais rémunérés. Et ça, il n'y a pas de limite, il y a juste une validation managériale.
Ouais.
Et le manager a 5 jours pour les valider ou non. S'il ne dit rien, ils sont validés par défaut.
Alors, congé illimité, donc, si je comprends bien, ça ne veut pas dire qu'on décide de quand est-ce qu'on est absent. Il faut quand même une validation. On ne va pas avoir un oui à chaque fois qu'on va demander à poser un jour par-ci, un jour par-là.
Exactement. Alors, on décide quand on veut être absent. Ouais. Par contre, le oui n'est pas automatique. Mmh. Il est quand même dans 95% des cas positif.
Alors, d'après une étude que vous avez réalisée en interne, je crois, 9 collaborateurs sur 10 se disent très satisfaits de cette mesure RH. Donc pour vous, c'est positif. Enfin, il n'y a pas d'abus.
Il n'y a pas d'abus sur 45 collaborateurs. Il y en a eu 3 dans l'histoire de l'entreprise.
Ouais, qui se sont caractérisés comment?
Alors, c'est des gens qui sont en vraie sous-performance depuis longtemps et qui prennent beaucoup trop de congés. Ouais. Donc, ça amène à des discussions avec le manager qui sont très saines sur les différences de perception. Et dans les 3 cas, il y en a un, ça s'est très bien passé. L'autre, discussion dure, mais qui s'est bien passé. Et troisième, un départ. Voilà, donc, c'est très sain.
Mm-hmm. Donc, 3 sur 45.
Oui, exactement.
45 salariés. Donc, ça veut dire que quand même, pour la grande majorité, il n'y a pas d'abus, ça se passe bien. Et eux, ils sont aussi très satisfaits de pouvoir fonctionner comme ça.
Exactement.
elles sont loin là, les 5 semaines de congés payés. C'est-à-dire que bon, ce sont les 5 semaines légales. Après, on peut aller bien au-delà. C'est combien de jours ils vont prendre en moyenne, du coup, avec cette liberté que vous leur donnez?
C'est une bonne question. En moyenne, ils prennent 7 semaines et demie. Et on a mesuré, vu que c'est notre métier de mesurer aussi, dans la vraie vie, ils pensent en prendre 6,5. Donc il y a une semaine de battement qui n'est pas perçue. Et ça, c'est des petits vendredis par-ci, par-là. Et voilà. Et c'est exactement le sens des vacances illimitées, qui est rajouter de la flexibilité, enlever un peu de la charge mentale et de se dire, j'ai une fuite d'eau, je peux poser mon après-midi, c'est pas une après-midi de moins que je passerai avec ma famille à Noël.
Très bien. C'est bien pour vous parce qu'en fait vous partez sur ces 5 semaines de base et puis donc vous nous dites en moyenne environ 7 semaines,
7 et demi,
un tout petit peu plus, 7 et demi. Pour une entreprise qui a mis en place dans sa convention par exemple 10 semaines avec les RTT, etc., 10, 11 semaines parfois ça existe hein, dans certaines entreprises, ça peut aussi devenir intéressant pour elles, pourquoi pas, de proposer ce système, parce que si on les salariés vont se mettre à prendre 7 semaines, ça veut dire qu'ils vont prendre moins que ce qu'il était possible de faire dans la convention au départ. Alors ça existe, ce type d'exemple?
J'en connais pas personnellement. Par contre, les vacances illimitées, c'est vraiment une question de flexibilité. C'est-à-dire avoir 11 semaines qui sont imposées par l'employeur versus 7 que vous pouvez choisir quand vous voulez, c'est quand même une différence. Donc nous, on a 7 semaines et demie, mais vous avez des collaborateurs qui en prennent 5 et d'autres qui en prennent 12, ça dépend.
Plus de compte épargne-temps dans ce cas-là, puisque ce sont des... il n'y a pas un nombre de jours qu'on peut épargner?
Non,
à part les cinq semaines.
Non, la philosophie est vous devez poser 5 semaines pour être reposé, donc productif. Les vacances sont pas faites pour être une manne financière qui est rétribuée. Donc c'est pour ça qu'on reste sur ce concept de jour de repos.
L'avantage pour l'employeur, c'est quoi? La productivité, l'amélioration des performances, ça vous le constatez?
Oui, on le mesure tous les mois. C'est l'engagement et puis la baisse de la charge mentale aussi pour les collaborateurs qui se sentent libres de poser et de souffler un coup.
Et pour terminer, c'est un argument important de recrutement, ça attire les talents, ce système?
Oui, il y a 70% de nos collaborateurs qui ont dit que ça avait joué dans la balance, soit très positivement, soit que ça avait permis de comparer deux offres et de choisir Superbot.
Et ben voilà, si des employeurs nous écoutent, ils pourront se faire leur avis et peut-être décider de aussi franchir le pas à leur tour. Merci beaucoup Kevin Bourgeois.
Merci.
Pour ce témoignage fondateur de Supermood. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouvez cette émission en podcast, en replay comme toujours. Une question, vous brûle les lèvres, un sujet que vous avez envie que nous traitions dans cette émission, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez par mail dans l'objet Happy Boulot et puis vous nous écrivez donc sur avecvous@bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain, d'ici là on vous souhaite d'être heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'émission qui vous sort de votre boîte.